Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. L'apôtre Jacques écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. L'apôtre Pierre, de son côté, écrit « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Remarquez les premières paroles de Jésus reprises dans l'Évangile selon Marc. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà donc les deux conditions essentielles à remplir si nous voulons devenir réellement chrétiens. Se repentir, c'est prendre conscience de nos erreurs et cesser de vivre dans le péché. Croire à la bonne nouvelle, c'est croire l'Évangile annonçant le royaume de Dieu, ce gouvernement que le Christ viendra bientôt établir sur cette terre. L'homme s'inquiète pour beaucoup de choses futiles, pour la plupart du temps. Autour de lui, des voisins, des amis, des connaissances meurent, et cela à tout âge. Il se fait du souci pour des choses temporaires, en oubliant que tout homme debout n'est qu'un souffle, et il ne recherche pas la volonté de Dieu bien souvent. Sa routine l'absorbe, et il oublie que son temps est limité. Qu'est-ce que la durée d'une vie? 10 ans, 20 ans, 50 ans et même 80 ans. Au cours de sa vie, l'homme ne devrait-il pas rechercher la volonté de Dieu dans toutes les Écritures, la mettre en pratique et se réconcilier avec Dieu en abandonnant le péché pour enfin trouver le bonheur et la paix de l'esprit? La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Le péché n'est pas ce que vous pensez être mal, mais c'est ce que Dieu a décrété comme étant le mal. Le jour de la Pentecôte, les apôtres reçurent le Saint-Esprit, cette puissance, cette pensée qui émane de Dieu. La foule demanda ce qu'elle devait faire à Pierre, et celui-ci leur répondit « Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Le repentir et le baptême sont deux étapes déterminantes dans la vie du chrétien. Savez-vous que le baptême était préfiguré par divers événements relatés dans l'Ancien Testament? La confusion qui existe au sujet du baptême résulte en partie dans l'ignorance de la signification de la traversée de la mer Rouge. Au sujet des événements racontés dans le livre de l'Exode, Paul écrit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus ou qui parvenons à la fin des siècles. » Il ajoute « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » L'apôtre Paul ne veut pas que nous restions dans l'ignorance de la signification réelle de cette traversée de la mer Rouge par le peuple que Dieu s'est choisi. Il nous confirme qu'il s'agit d'un baptême, et le mot grec traduit par « baptiser » signifie « plonger, immerger ». Sous la servitude égyptienne, le peuple d'Israël avait adopté de mauvaises pratiques. L'Éternel entendit les plaintes du peuple et se souvint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Il envoya Moïse pour faire sortir le peuple de ce pays qui était le symbole du péché. Après sa sortie d'Égypte, Dieu amena le peuple vers Pi-Hahiroth, dans une gorge encaissée dont la seule issue était la mer Rouge. Les enfants d'Israël paniquèrent en voyant que l'armée de Pharaon s'était lancée à leur poursuite. Moïse les rassura en disant « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Dieu ne les avait pas guidés jusqu'à cet endroit par hasard. Le choix était intentionnel. Le peuple entra dans la mer Rouge qui se fendit, les eaux formant une muraille de chaque côté. Le peuple aurait été noyé si Dieu ne l'avait protégé grâce à ce miracle. Tout comme le baptême, la traversée de la mer Rouge symbolise l'immersion dans une véritable tombe liquide. Pharaon et ses soldats vivaient dans le péché et ils périrent dans cette tombe. En traversant la mer Rouge, les Israélites quittaient ce qui avait été leur vie au sein de la nation égyptienne, symbole du péché, pour en adopter une autre dans la terre promise. Cette traversée miraculeuse préfigure le baptême du chrétien. Les rites de purification à l'époque de l'Ancien Testament étaient nombreux. Par exemple, avant de se présenter devant le propitiatoire, symbole du trône de Dieu, le sacrificateur devait laver, baigner son corps dans l'eau. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était lépreux. Il alla trouver le prophète Élisée qui, sans le recevoir, lui fit dire par un messager « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Dieu a toujours voulu que les hommes soient purs physiquement, mentalement et spirituellement. Ces cérémonies relatées dans l'Ancien Testament étaient une préfiguration du nettoyage spirituel possible grâce à Jésus-Christ et au Saint-Esprit que Dieu ne donne qu'à celui qui lui obéit. Ces cérémonies ne pouvaient purifier spirituellement ni ouvrir l'accès au royaume de Dieu à ceux qui les pratiquaient. Voici un des reproches que Dieu adressa à Israël, et je cite, « Quand tu te laverais avec du nitre, qui est un agent nettoyant puissant, quand tu emploierais beaucoup de potasse, c'est un produit caustique qui attaque la peau, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. » L'apôtre Paul mentionna ces cérémonies. C'est une figure où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, autrement dit des purifications accomplies avec de l'eau, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice du Christ. Ces ablutions étaient un signe qui ne pouvait pas purifier l'esprit. Seule la repentance, suivie du don du Saint-Esprit, peut amener l'homme à la conversion, en adoptant un nouveau mode de vie. Toutes ces ablutions, ces purifications par l'eau, symbolisaient le baptême par immersion instauré dans le Nouveau Testament. La traversée du peuple d'Israël à travers la mer Rouge n'était qu'une préfiguration du baptême, donc un symbole effectué sous l'Ancienne Alliance, une alliance physique qui ne promettait que des récompenses matérielles. Par contre, remarquez ce que Dieu dit de la nouvelle alliance, pour laquelle des promesses encore plus grandes sont prévues. Il dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Jean-Baptiste fut le premier à baptiser ceux qui recherchaient la repentance. Qui donc lui a conféré l'autorité de baptiser? Jean-Baptiste construisit le trait d'union entre les rituels de l'Ancien Testament et le Christ. Il apporta ainsi plus de clarté pour la compréhension du plan de salut. Mais qui lui avait enseigné la façon de procéder pour le baptême? Jean-Baptiste connaissait la signification de tous ces exemples de l'Ancien Testament depuis sa plus tendre enfance. Les Écritures nous révèlent que ses parents étaient justes devant Dieu. Jean-Baptiste avait compris que la traversée de la mer Rouge par toute une nation était un symbole de la révélation de ce que chaque individu devait faire, se repentir et ensuite être immergé ou baptisé dans l'eau. Lisons ce qu'il dit aux pharisiens et aux sadducéens de son époque. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jean-Baptiste nous laisse un exemple pour la cérémonie du baptême, qui est une immersion totale dans l'eau. L'Écriture déclare, Jean aussi baptisait à Énon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. De nombreux autres exemples démontrent que le baptême doit se faire par immersion. L'eau dans laquelle le pécheur est plongé et sort en nouveauté de vie symbolise une tombe liquide dans laquelle le vieil homme, l'homme pécheur a été enseveli. Le baptême est donc la mort, la fin de la vie de péché. Le mot baptême est traduit du grec baptizo qui signifie tremper, submerger, plonger sur la surface, comme le confirment divers ouvrages. Tout autre baptême n'est que tradition humaine et contraire à l'enseignement biblique. Toutefois, le baptême ne sert à rien avant d'avoir décidé de se repentir de ses péchés et de vivre en conformité avec la volonté divine. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, Pierre n'hésita pas à dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». La repentance doit immanquablement précéder le baptême. La semaine prochaine, nous examinerons les instructions et les exemples de baptême dans le Nouveau Testament.